Chapitre 7. Papa. Mercredi 16 août 2000, 16h37, au large du port de Saint-Argan, île de Mornecey. Armand, à côté de moi, dans le bateau, ouvrit un œil. « Tu dors pas ?» me fit-il. « Non, je réfléchis. T'as raison, ça rend moins con. Tu me réveilles pour l'apéro ?» Armand ferma à nouveau les yeux en se retournant sur le côté, tout en glissant presque inconsciemment sa main dans son slip de bain. Un sourire de contentement s'afficha sur ses lèvres. Le moins débile des ados de ce camp était néanmoins un obsédé. Qu'est-ce que je fichais là ? Sur la mer d'huile, les petits triangles blancs des voiles d'autres voiliers se perdaient à l'horizon. Pour une fois, j'appréciais la voile, la mer, le calme, perdu dans mes pensées. Il y a 6 mois, en regardant ce catalogue de camps d'ados d'été, j'étais tombé sur ce camp de voile, sinistre et sans intérêt, mais qui se déroulait sur l'île de Mornecey. Immédiatement les souvenirs, pas enfouis bien profonds, m'étaient revenus. Des impressions plutôt. Le soleil et les grandes tables d'adultes. L'ombre de la croix Saint-Antoine. Les pierres et la poussière. La citadelle peut-être, ou le phare, je ne sais plus. Je m'étais assis dans le faux Voltaire de mon oncle. Un sacrilège! Plus je tentais de reprendre mes esprits, et plus cette envie se faisait pressante. Retourner sur l'île de Mornecey. À cause de ce doute lancinant, depuis ce jour où ma nourrice m'avait annoncé la mort de mon père, en insistant tellement, c'est un accident, en insistant trop sur ce mot. J'ai beaucoup réfléchi depuis. Si ce n'était pas un accident, alors mon père s'était sans doute suicidé. C'est ce que j'ai toujours pensé, du moins depuis que j'ai l'âge de penser à ces choses-là. C'est ce que des demi-mots de conversation espionnés auprès de Thierry et Brigitte m'ont toujours laissé imaginer. Il s'était produit une catastrophe du côté de l'abbaye, quelque chose de grave, un fait divers tragique. Toute l'équipe avait été obligée de fermer les fouilles dans la panique la plus complète, de quitter l'île. Mon père était le responsable du chantier, une sorte d'association qu'il présidait. Il se serait suicidé à cause de cette affaire. Ma mère ne l'aurait pas supporté et se serait tuée en voiture. Un accident officiellement, un autre suicide officieusement. Voilà où j'en étais après 10 ans de recoupement de bribes de conversations volées et d'indices disparates. C'est la version à laquelle j'avais abouti. La version la plus probable. Celle qu'on voulait me faire croire. Pendant longtemps, j'avais échafaudé l'hypothèse d'un crime. On me protégeait d'un monstre. Mes parents avaient été assassinés. On m'avait mis précipitamment à l'abri chez ma nounou, évacué de l'île de Mornecey avec peut-être pour me protéger toute une escorte de flics que moi, gamin, je ne remarquais pas. J'étais jeune. J'étais en danger. Le syndrome Harry Potter. Je regardais, lorsque j'allais à l'école, si des gardes du corps discrets me suivaient. C'était fini ce temps-là, même si, parfois encore, je cherchais des indices. Dans mes souvenirs, je traquais une marque de panique chez les adultes autour de moi. Dans mon lit, je dressais l'oreille aux sirènes soudaines qui hurlaient dans la ville, aux crissements de pneus, aux gyrophares dans la rue. Des flics qui vont débarquer pour venir me chercher. Elle m'était passée, cette obsession. L'intuition qui m'avait poussé à revenir sur Mornecey était pourtant plus étrange encore. Étrange et si simple à la fois. Au fond de moi, au fil des années, une évidence était née. Un petit doute qui avait pris de plus en plus de place, jour après jour, pour devenir, depuis quelques années, une certitude. Surtout ces derniers mois. Mon père n'était pas mort. Toute une série de signes me poussait à le penser. Ma tante Brigitte, par exemple, dans son agenda, n'avait jamais rayé le nom de mon père. Elle changeait d'agenda tous les ans et chaque année, elle recopiait à la lettre R tous les noms de notre famille. Rémi Madeleine, ma grand-mère, et Rémi Jean, mon père. Depuis 10 ans, elle recopiait une même adresse. 1012, route de l'abbaye, et un même numéro de téléphone. Je n'avais jamais osé téléphoner ou écrire à cette adresse. J'avais peur, je crois, d'une réponse trop brutale. Je n'avais pas appris à affronter la réalité. Je m'étais habitué aux non-dits et aux sous-entendus. L'indice pourrait sembler maigre, je le reconnais. Un simple nom et une adresse dans un agenda, mais il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Alors, Lorsque j'avais vu sur ce catalogue de Candado « Île de Morne-Sey », je n'avais pas regardé si on y faisait de la voile ou du macramé. J'avais seulement pensé « C'est un signe du destin, une chance unique à saisir, l'occasion ou jamais ». Lorsque Brigitte et Thierry étaient rentrés le soir, je leur avais dit que, finalement, j'étais d'accord pour partir en camp, que je n'allais pas rester dans leurs pattes tout l'été, que j'avais choisi. Aux anges, ils étaient, le tonton et la tata. Mais lorsque je leur ai annoncé que j'avais choisi un camp de voile, ils ont senti le coup fourré. La voile, ce n'était pas franchement ma passion. Alors, je leur ai montré la plage sur le catalogue, avec détermination, presque la première fois depuis 10 ans. C'est là que je veux aller. Ils étaient blêmes. Tu crois que c'est une bonne idée ? Avait demandé Thierry sans oser se dévoiler davantage. En dire plus, c'était briser le tabou. Sur le moment, cela avait failli me faire exploser, cette façon de ne jamais parler de mon père. Mais non. On savait tous les trois pourquoi je voulais aller sur l'île de Morne-Sey. On savait tous les trois pourquoi ils n'avaient pas envie que j'y aille. On discutait en sachant quels étaient les mots interdits. Alors, quel besoin de les prononcer ? La conversation était ridicule, aberrante, mais il était impossible de la tourner autrement. « C'est là que je veux aller » avais-je insisté, calmement, fermement. Brigitte avait feuilleté le catalogue et m'avait appâté avec le camp de théâtre ou le camp jeu de rôle. Elle connaissait mes goûts, mais ils avaient vite compris que je ne céderais pas. Thierry, c'était toujours Thierry qui décidait, avait fini par céder. « Après tout, si c'est ce qu'il veut... » Voilà comment je m'étais retrouvé, ce 16 août 2000, sur un 420 au milieu de la Manche, à me geler les fesses pendant qu'un monocrétin me gueulait dessus parce que j'avais peur de me mettre en rappel. Depuis 10 jours. Armand dormait toujours. Je laissais ma main doucement tomber dans l'eau pour sentir le contact froid. Brrr. Je n'étais vraiment pas fait pour ça. Au loin, plein ouest, j'observais l'élégante silhouette du phare des Enchaînés. Un instant, l'image des forçats emmenés de force de l'île de Morne-Sey vers les bagnes de l'outre-mer me traversa l'esprit. Le père Duval nous racontait parfois l'histoire de l'île à la veillée. Il était assez doué, mais cela n'empêchait pas la majorité des ados de ricaner ou de dragouiller pendant ses cours d'histoire imposés. Des milliers de forçats, pendant des siècles, eurent pour dernière image d'un monde qu'ils quittaient à jamais, ce phare des Enchaînés. Quitter Morne-Sey. Revenir à Morne-Sey. Avant de revenir sur l'île, j'avais pris soin de copier sur l'agenda de Brigitte la vieille adresse de mon père. 1012, route de l'Abbaye. La route de l'Abbaye est difficile à manquer. Elle va de la capitale de l'île, Saint-Argan, au terminal du ferry vers le continent, en passant devant l'Abbaye Saint-Antoine, qui se situe plutôt au centre de l'île, en longeant grosso modo la mer. Le seul problème, c'est que route de l'Abbaye, il n'y avait pas de 1012. La numérotation des maisons était kilométrique. 1012 signifiait que le pas de porte devait se situer exactement à 1012 km de la mairie de Saint-Argan. Mais à 1012 km de la mairie, il y avait un champ. Un petit champ de maïs. Un peu avant, une vieille ferme qui portait le numéro 987. Un peu après, une autre ferme portait le 1225. Entre les deux, rien. Impossible de se tromper. C'était la route que l'on prenait tous les jours pour aller et revenir de la voile. Le fermier que j'avais réussi à interroger m'avait affirmé qu'il n'y avait jamais eu de maison entre les deux fermes. Juste un champ, depuis toujours. La route de l'Abbaye s'arrêtait au 1521. À gauche, l'Abbaye, à droite, la presqu'île sauvage où notre camp était planté. Mystère. Peut-être que Brigitte s'était trompée en recopiant l'adresse. Peut-être. À bien y penser, en revenant ici sur l'île de Morne-Sey, qu'est-ce que je cherchais ? Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. J'imaginais que les souvenirs allaient me revenir par gros flocons, que les lieux allaient m'inspirer des images. L'abbaye Saint-Antoine, le port de Saint-Argan, le phare des Enchaînés, la citadelle Mazarin, l'anse de rubis, la presqu'île sauvage. Je pensais que j'allais revoir les 6 premières années de ma vie défiler comme un film en continu. Le résultat était sans appel. Une désillusion totale. Mes souvenirs étaient quasi inexistants. Rien de plus qu'avant. Et de l'île, je n'avais presque rien reconnu. L'abbaye était désormais en ruine. Juste ouverte pour quelques touristes perdus. Autour de Saint-Argan et du port, s'étaient construits des lotissements en pagaille, tristement banals. Les campings aussi avaient poussé comme des champignons partout où l'on voyait la mer, c'est-à-dire presque partout sur l'île. La citadelle, le phare, l'anse de rubis ressemblaient exactement aux photos que je collectionnais secrètement à la maison de Cormeil en Parisie depuis 8 ans. Des clichés, rien de plus. Une banale île touristique, moche et envahie de touristes l'été. Chiante et vantée. Tout ce que je détestais. Sans mystère, plate, moderne. Une île de beauf en tong et bob. Une île surpeuplée. Impossible d'y être seul, de se recueillir. Avant le camp, je m'imaginais marcher dans les traces de mon père et du mystère de sa disparition. Fouiller l'abbaye, fouiner, découvrir. Rien. Rien de rien. Aucune trace de rien. Je me faisais chier dans le camp d'adolescents où je n'avais pas ma place. Jour après jour, la réalité m'explosait à la figure, évidente, inéluctable. Ma petite aventure personnelle était d'une banalité affligeante. J'avais vécu sur cette île lorsque j'étais enfant, jusqu'à 6 ans. Un jour, mon père était mort, dans un accident, à la suite d'un fait divers local. Peut-être s'était-il suicidé, de même pour ma mère. J'étais devenu orphelin. On avait quitté l'île. Plus personne ici ne se souvenait de cette histoire ancienne. Ou tout le monde s'en fichait. Peut-être que mon père trompait ma mère. Peut-être qu'il avait des dettes. Un truc glauque sûrement, mais rien de bien mystérieux. Je m'étais monté un film tout seul, loin de cette île, de mon enfance. Il me restait à jeter dans un grand sac mes délires et à oser en parler avec Brigitte, Thierry ou ma grand-mère Madeleine. À adopter une attitude adulte. À sortir de l'enfance, à sortir de cet imaginaire peuplé de disparus sur le point de ressurgir. Des fils de rois à qui on cache leur noble origine pour les faire élever en secret par des paysans loin du palais. Il me restait à vieillir, à en finir avec le passé et à regarder l'avenir. Finalement, ce séjour sur l'île de Mornecey était salutaire, indispensable même. Il m'avait permis de faire le deuil, définitivement. Le clapotis des vagues continuait de me bercer. Avais-je les yeux ouverts ou fermés ? Fermés, sans doute. En tout cas, j'étais perdu dans mes pensées. C'était la première fois depuis 10 jours que j'arrivais à y voir aussi clair. Mon père était mort, et il me fallait venir, revenir sur cette île pour m'en rendre compte, pour solder mon enfance et ses fantômes. Adieu, papa. J'avais toujours eu énormément de mal avec ce mot, papa, à l'écrire, le dire, le penser ainsi. Papa. Mais puisque c'était la dernière fois, alors j'acceptais de faire l'effort. Adieu, papa. C'était décidé. J'allais voler de mes propres ailes. Plus que 7 jours dans ce camp de dégénérés. J'allais bien parvenir à tenir le coup. En plus, dans 4 jours, Brigitte et Thierry passaient au camp. Ils débarquaient le jour de mon anniversaire, le 19 août. Ils avaient eux aussi saisi l'occasion pour revenir sur l'île. Peut-être pour me surveiller. Peut-être eux aussi pour faire le deuil d'une période trouble de leur vie, ou pour retrouver de vieux amis. Peut-être aussi pour me faire plaisir. Non, je n'étais pas subitement devenu aussi naïf. On devait rester ensemble sur l'île quelques jours après le camp. J'allais enterrer le passé. Bonjour la vie. J'ouvris les yeux. Le soleil m'inonda. J'étais bien. Très bien. Notre 420 avait gentiment dérivé. Armand dormait toujours. Je restais quelques instants sans penser à rien. Le bruit de moteur du Zodiac de Yo-Yo et Stéphanie me fit sursauter tout en réveillant Armand. « Fini la récré !» gueula Yo-Yo. « On rentre ! J'espère ne pas avoir à vous remorquer pour une fois !» C'est vrai qu'il était assez rare que l'on parvienne seul à retrouver l'entrée du port. Les vents prenaient toujours un malin plaisir à souffler à l'envers de ce qu'il fallait. Je secouai Armand, encore à moitié endormi. « Allez, remue-toi, mon gros !» Il me fit quelques secondes des yeux de hibou. « Hein ? Quoi ? » Où pouvait-il bien être parti ? J'insistais. « On rentre, Tabarly ! Ben, on n'attend pas qu'il nous remorque ?»« Il a pas l'air décidé, Yo-Yo, aujourd'hui. » Il préfère rester peinard avec Steph, l'enfoiré. Rien à foutre. Le client est roi. C'est nous qui réglons son salaire, au Yo-Yo. On le paie pas pour qu'il drague sa copine sous mon nez. Oh, tu charries, Armand. Armand n'en démordit pas. Il fit des grands signes de bras jusqu'à ce que Yo-Yo et Stéphanie reviennent. « On n'y arrive pas, Yo-Yo !»«
Vous n'avez même pas essayé !»
soupira Stéphanie.
« Si, mais c'est trop chiant !»
Yo-Yo souffla, désespéré.
« T'es vraiment une plaie, Armand !»«
Même si on y met de la bonne volonté, » répondit le nabo, « tu sais bien qu'on ne sera pas rentré avant 14h. À cette heure-là, toutes les filles de la plage seront déjà habillées !»
Stéphanie rit franchement et Yo-Yo soupira à son tour.
« C'est la dernière fois, les boulets. Demain, je vous sépare. »«
Demain, » répliqua Armand, « il n'y a pas voile, c'est jeudi. Et le jeudi, c'est relâche. »«
Tant mieux, ça nous fera des vacances, » dit Yo-Yo en lançant une corde sur notre bateau.
Le moniteur nous remorqua avec son zodiaque jusqu'au port. On y arriva avant les autres. La plupart, en nous voyant les doublés, ne se privèrent pas de protester.
« À la voile, comme tout le monde !» criait-il
à plein poumon pour couvrir le bruit du moteur. Armand, désormais réveillé et déchaîné, lançait des bras d'honneur et pointait des majeurs à la volée. Le vent me semblait être tombé d'un coup. Les autres ados galéraient. Après avoir tiré le 420 sur la plage, je m'assis sur le sable en attendant les retardataires. Il faisait bon. Le soleil, sur le gilet de sauvetage qui me serrait, m'offrait une agréable sensation de chaleur. Armand n'en avait pas assez. Debout sur la plage, il se redressait de son 1m50 et engueulait les autres ados qui rentraient.
« Qu'est-ce que vous foutez? Maniez-vous un peu! On n'a pas que ça à foutre, j'ai rencard ce soir !»
Ça faisait rire la plupart de ceux qui arrivaient. Eux adoraient la voile, des passionnés. Alors, les conneries d'Armand, ça glissait sur eux. Finalement, je me disais que j'étais plutôt bien. Du soleil, quand même un peu, des mecs de mon âge, plutôt prêts à rigoler pour la plupart, quelques filles dans le camp, 6 exactement, dont aucune vraiment canon. Mais je ne leur avais, pour ainsi dire, pas adressé la parole depuis le début. Les filles deviennent souvent plus mignonnes quand on les connaît mieux. Elles devaient penser pareil pour nous. Les derniers jours de camp pouvaient devenir agréables, si j'y mettais du mien, si je laissais les fantômes au placard et que j'acceptais mon statut d'ado normal. D'ado sans égo. Banco. Pris de courage et nourri de bonnes résolutions, j'empoignai ma voile sous le regard admiratif d'Armand et je la remontai vers le local du club. Je passai par le parking, sans esquinter les voitures garées. Une première. En fin de journée, le port s'animait. Les terrasses se remplissaient. Quelques marieurs vendaient leurs poissons et les touristes venaient en masse avec leurs enfants prendre en photo l'agonie des crabes et des crevettes. La rue était dégagée. Il y avait juste en face une camionnette blanche, une Ford Transit Connect, qui attendait que les touristes s'écartent pour passer. Je m'avançais, au moment même où le camion de livraison redémarrait. Le conducteur freina. En me voyant empêtré avec ma voile plus haute que moi, il sortit sa main par la vitre ouverte de sa portière et me fit signe de traverser. Je m'avançais donc, levant juste la tête pour remercier le chauffeur, qui me regardait d'un air distrait. C'était lui. Dès l'instant où je vis son visage, j'ai su que c'était lui. Pas quelqu'un qui lui ressemblait, non. L'expression, le regard, l'ensemble de son visage ne me laissaient aucun doute. Même s'il portait une barbe qui n'existait pas dans mon souvenir. C'était lui. La camionnette continua sa route sans que le chauffeur me jette un autre regard. Mais, aussi impossible que cela puisse paraître, cette certitude me submergeait. Le conducteur de la camionnette était mon père. La Ford Transit disparut au bout du port sans que j'aie le temps ni la présence d'esprit de relever la plaque d'immatriculation, ni même de courir après. Je restais là, avec ma voile mouillée dans les bras, et un grand brouillard dans le crâne. Sans l'ombre d'un doute, cet homme était mon père. Vivant.